Sermon sur le renvoi de la conversion. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Ésaïe 55, verset 6. Second sermon. Il y a déjà quelque temps, s'il vous en souvient, mes frères, que nous vous adressâmes ces paroles. Nous nous proposions moins d'en peser les termes avec scrupule que d'en prendre l'occasion de combattre le renvoi de la conversion et les idées outrées des miséricordes divines. Et nous vous avons alors dit que nous puiserions nos réflexions dans trois sources, dans l'homme, dans l'écriture, dans l'expérience. Nous avons commencé par le premier point de ce projet. Aujourd'hui, nous avons dessein de suivre le second. Et si la Providence nous appelle à remonter dans cette chair, nous expliquerons le troisième et nous mettrons ainsi la dernière main à cette matière. Si vous aviez été attentif à ce que nous vous avons proposé dans notre premier discours, si le désir de votre salut vous attirait dans ces assemblées, vous seriez devenu plus sage. Vous auriez senti vivement combien est vaine la prétention de ces pécheurs qui véritablement veulent travailler à l'ouvrage de leur salut, mais qui le diffèrent sans cesse. Car qu'y a-t-il de plus propre, je vous prie, à jeter l'épouvante et l'horreur dans un cœur qui renvoie à sa conversion, que les réflexions auxquelles nous engagea la seule inspection de l'homme? Qu'y a-t-il de plus propre à terrasser un tel homme que de lui dire, comme nous l'avons alors fait, votre cerveau s'usera avec la vieillesse. Votre âme aura des idées d'une autre nature dont elle s'arremplit. Elle perdra avec les années la puissance de se tourner vers d'autres objets que vers des objets sensibles et d'entrer dans l'examen des vérités de la religion. Qu'y a-t-il de plus propre à arracher un tel homme à ses préjugés que de lui faire comprendre que la manière et l'unique manière d'acquérir des habitudes c'est d'en faire des actes réitérés, que la vertu ne saurait se former au-dedans de nous par un seul mouvement de l'âme, par une résolution subite et précipitée, mais par un travail opiniâtre et réitéré. Que l'habitude du crime se fortifie à mesure qu'on s'abandonne au crime. Qu'est-il de plus propre, enfin, à nous faire employer le temps de notre santé à notre salut que d'exposer à nos yeux l'état d'un mourant, que de nous le dépeindre étendu dans un lit d'infirmité, occupé de ses maux, troublé de fantômes et de rêveries, flatté par des amis, épouvanté de la mort et incapable par cela même de fournir un ouvrage dont il différait l'exécution jusqu'à ce tragique période. Je le répète encore, mes frères, si vous étiez attentifs au discours que l'on vous adresse, si le désir de votre salut vous attirait dans ces assemblées, il n'y a personne de vous que ces sortes de réflexions ne fassent rentrer en lui-même et ne forcent de travailler à reformer sans délai le plan de sa vie. Mais il semble à quelques personnes que nous rétrécissons le chemin du ciel, que les vérités de la foi étant hors de la sphère des vérités philosophiques, il faudrait éteindre les lumières de la raison et ne prendre pour notre guide dans les voies de la religion que le flambeau de l'écriture. Nous allons travailler à les satisfaire. Nous allons vous montrer la religion fortifiant ces mêmes réflexions que notre raison nous avait fournies, bien loin qu'elles les affaiblissent. Nous allons vous prouver qu'elles ne disent rien, qui ne doivent effrayer ceux qui renvoient leur conversion et qui règlent l'idée qui se forme des miséricordes divines, non sur la nature de Dieu, mais sur le penchant déréglé de leur propre cœur et sur le système impur de leur cupidité. Voilà le dessein de cet exercice. Vous le dirons-nous, mes frères ? En entrant dans cette matière, nous craignons peu les difficultés dont elle peut être susceptible. Nous espérons que la vérité va paraître dans tout son jour, malgré nos grandes faiblesses. D'autres pensées occupent notre imagination, et peu s'en faut qu'elles ne nous arrêtent au premier pas de la carrière. Nous craignons les difficultés de vos cœurs. Nous craignons plus, nous craignons que ce discours, où vous allez voir que les trésors de la grâce aggravent la condamnation de ceux qui la changent en dissolution. Nous craignons que ce discours, par l'abus que plusieurs de nous en vont faire, ne les fasse servir eux-mêmes de preuve à la vérité que nous voulons établir. Ô Dieu, détourne ce funeste augure, et que ces cordages d'humanité que tu déploies à nos yeux nous attirent et nous entraînent. Amen. L'Écriture sainte est la source où nous puiserons aujourd'hui nos arguments pour combattre le renvoi à plus tard de la conversion. Si nous n'avions dessein que de vous alléguer ce qu'elle dit de positif sur cette matière, nous n'aurions pas besoin d'un grand effort de méditation. Nous n'aurions qu'à transcrire cet amas d'affirmations infaillibles, d'avertissements réitérés, d'exemples formidables, de menaces terrassantes, dont elle est remplie, et qu'elle adresse à tous ceux qui osent différer de se convertir. Nous n'aurions qu'à vous faire entendre cette leçon d'un prophète. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez point vos cœurs. Leçon qu'il appuie de son exemple, comme il nous déclare lui-même, « Je me suis hâté et je n'ai point différé de garder des commandements ». Nous n'aurions qu'à vous adresser cette réflexion de l'auteur du second livre des Chroniques. Le Seigneur, le Dieu de leur père, les avait sommés par ses messagers, parce qu'il était touché de compassion envers son peuple. Mais il méprisait leurs paroles, ils abusaient de ses prophètes, jusqu'à ce que la fureur de l'Éternel s'allumât contre son peuple, tellement qu'il n'y eut plus de remède. C'est pourquoi il fit venir contre eux le roi des Chaldéens, qui tua leurs jeunes avec l'épée. Il ne fut point touché de pitié, ni pour les hommes, ni pour les filles, ni pour les vieillards. On brûla la maison de Dieu, on démolit les murailles de Jérusalem, on mit en feu tous ses palais. Nous n'aurions qu'à vous proposer cette éclaration de la sagesse éternelle. Parce que j'ai crié et que vous avez refusé d'écouter, je rirai de votre calamité, je me moquerai quand votre effroi surviendra. Nous n'aurions qu'à vous représenter ce tendre spectacle, Jésus-Christ pleurant sur Jérusalem et disant « Oh, si toi aussi tu avais connu, du moins en cette journée, les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. » Nous n'aurions qu'à dire à chacun de vous, comme autrefois saint Paul, « Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longue attente, ne connaissant point que la bonté de Dieu t'invite à la repentance ? Mais par ta dureté et ton cœur sans repentance, tu t'amasses la colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. » Et ailleurs, que Dieu envoie une puissance d'erreur pour croire aux mensonges à ceux qui résistent à la vérité. Nous n'aurions qu'à faire résonner dans cet auditoire ces foudroyantes paroles de l'Épître aux Hébreux. Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et une ferveur de feu qui doit dévorer les adversaires. Car si la miséricorde de Dieu est sans borne, si elle est prête à recevoir les pécheurs, dès que la crainte, la peine les porte à se jeter entre ses bras, pourquoi ce jour précis marqué pour écouter la voix de Dieu? Pourquoi se hâter? Pourquoi cet épuisement de ressources et de remèdes? Pourquoi cette puissance d'erreur? Pourquoi ce refus d'écouter une pénitence tardive? Pourquoi cette fin des jours de la visitation sur Jérusalem? Pourquoi ces trésors de colère amassés? Pourquoi ce défaut de sacrifice pour le péché? Tous ces passages, mes frères, sont d'autant d'arrêts contre nos délais, contre ces idées contradictoires que nous aimons à nous former des miséricordes divines et dont nous servons follement pour nous endormir dans nos vices. Et par cela même, que toutes ces choses sont claires et sensibles, nous ne nous arrêtons pas à les expliquer. Portons plus avant notre méditation. Lorsque nous avons employé des arguments philosophiques contre le renvoi de la conversion, lorsque nous vous avons prouvé par la force des habitudes qu'il était très difficile, pour ne pas dire impossible, qu'un cœur vieilli dans le crime se convertît à l'heure de la mort, il vous a paru que nous ébranlions les deux dogmes, qui sont en effet deux points fondamentaux de votre foi. Le premier est le secours surnaturel de l'Esprit de Dieu, qui est promis sous l'Alliance de grâce. Secours qui fléchit les volontés les plus rebelles, et qui peut surmonter dans un instant tous les obstacles que la force de l'habitude pourrait opposer à la conversion. Le second dogme est celui de la miséricorde, dont l'accès nous étant ouvert par l'aspersion du sang de Jésus-Christ, il n'y a point de moment où il semble que nous n'y puissions être admis, dès que nous voudrons y avoir recours, fût-ce aux extrémités de notre vie. Voilà en substance, si je ne me trompe, tout ce que la religion et nos écritures semblent opposer à ce que nous avons avancé de notre première action. Si nous vous faisons donc voir que ces deux dogmes ne combattent point nos principes, si nous prouvons qu'ils n'ont rien qui ne soit entièrement opposé aux conclusions qu'on en tire, ne ferons-nous pas voir cela même que l'écriture dont on se sert pour nous combattre n'a rien qui ne doive effrayer ceux qui s'appuient sur une repentance tardive. C'est ce qu'il faut développer. La chose n'est pas sans difficulté. Nous allons marcher désormais entre deux écueils également dangereux. Car d'un côté, si nous nous éloignons de ces dogmes, nous abjurons la foi de nos pères et nous nous attirons une réputation d'hétérodoxie. D'un autre côté, si nous donnons trop à ces dogmes, nous fournissons des prétextes au libertinage. Nous démolissons ce que nous avons édifié et nous nous réfutons nous-mêmes. Évitons l'un et l'autre de ces écueils. La première preuve dont on se sert pour excuser les renvois et sa négligence, et les premiers arguments qu'on puise de l'Écriture pour nous combattre, sont pris des secours de l'Esprit qui nous sont promis sous la nouvelle économie. Pourquoi ces discours menaçants, dit-on? Pourquoi effrayer un pécheur qui diffère de se convertir? Pourquoi confondre ainsi les habitudes de la religion avec les habitudes naturelles? Celles-ci se forment, il est vrai, par le travail et par l'étude, par une assiduité opiniâtre et sans interruption. Les autres viennent au contraire par des secours d'une autre nature. Ce sont les productions de la grâce. C'est le Saint-Esprit qui les infuse dans une âme. Je n'invaliderai donc point ces dogmes si consolants. Je mettrai à profit les prérogatives du christianisme. Je donnerai ma vie au monde. Et quand je la verrai prête à s'éteindre, je me prévaudrai du titre de chrétien. Je m'abandonnerai à la conduite du Saint-Esprit. Et alors, cet Esprit, selon sa promesse, se répandra dans mon âme avec toute sa puissance. Il domptera mes mauvais penchants. Il déracinera mes habitudes les plus invétérées. Et il fera dans un moment ce qui m'eût coûté tant de travaux et tant de peines. Voilà une objection que bien des pécheurs n'ont point honte de prononcer, qu'une fausse théologie n'entretient que trop dans plusieurs esprits et sur laquelle nous fondons presque tous la chimérique espérance de nous convertir au lit de la mort. C'est à nous à répondre à cette objection. Nous allons en faire voir la fausseté. Premièrement, par le ministère que Dieu a établi dans l'Église. Deuxièmement, par les efforts qu'il nous ordonne de faire lorsque nous croyons n'avoir pas reçu le Saint-Esprit. Troisièmement, par la manière dont il veut que nous répondions aux opérations de l'Esprit lorsque nous l'avons reçu. Quatrièmement, par les peines qu'il annonce à ceux qui refuseront de répondre à ces opérations. Cinquièmement, enfin par les conclusions que l'Écriture tire elle-même de notre impuissance naturelle et de la nécessité de la grâce. Voilà cinq sources de considération, mes frères, qui vont démontrer que tout homme qui tire des secours de la grâce qui nous sont promis des conclusions pour vivre dans la nonchalance, pour espérer acquérir sans travail, sans peine, sans acte réitéré les habitudes de la piété, fait violence à la religion et n'entre point dans le génie de l'économie du Saint-Esprit. Première preuve que les secours du Saint-Esprit n'autorisent point la nonchalance de l'homme et le renvoie à plus tard de la conversion. C'est l'établissement du ministère dans l'Église. Car si le but du Saint-Esprit était de nous éclairer de ses lumières, sans que nous étudions nous-mêmes la religion, si le but du Saint-Esprit était de nous sanctifier sur le champ, sans que nous travaillassions nous-mêmes à ce grand ouvrage, pourquoi établir un ministère dans l'Église? Pourquoi vouloir que de notre enfance, on nous montre les premiers éléments de la religion? Que l'on nous enseigne ligne après ligne, commandement après commandement, selon l'expression d'un prophète? Pourquoi vouloir ensuite que, laissant la parole qui enseigne le commencement de Christ, nous tendions à la perfection, pour m'exprimer avec saint Paul? Pourquoi vouloir que l'on nous fasse passer du lait aux viandes solides, comme parle le même apôtre? Pourquoi vouloir que l'on nous propose des motifs, qu'on nous adresse des exhortations? Pourquoi ne nous pas éclairer et ne nous pas sanctifier sans moyens, sans pasteur, sans prédication, sans parole, sans ministère? Pourquoi agir précisément dans la science du salut comme dans les sciences humaines? Car quand on veut enseigner une science à un homme, on se proportionne à sa capacité, à son esprit, à sa mémoire. Et c'est ce que Dieu veut que l'on fasse à notre égard. La foi est de lui, dit saint Paul, et lui est par la parole. Étant monté en haut, il a donné les uns pour être apôtres, les autres pour être prophètes, les autres pour être évangélistes, les autres pour être pasteurs et docteurs, pour l'équipement des saints, pour l'œuvre du ministère. Remarquez ces expressions, et pour l'édification du corps de Christ. Ne sentez-vous donc pas quelle était l'injustice de votre prétention? Puisque Dieu veut qu'il y ait un ministère, ne concevez-vous pas qu'il veut que vous déferriez à ce ministère? Puisqu'il ouvre les portes de ses temples, ne concevez-vous pas qu'il veut que vous y entriez? Puisqu'il veut qu'on vous prêche, ne concevez-vous pas qu'il veut aussi que vous écoutiez? Puisqu'il veut que vous écoutiez, ne concevez-vous pas qu'il veut aussi que vous compreniez? Puisqu'il veut qu'on vous adresse des raisonnements, qu'il veut que vous le sentiez, voyez-vous qu'il tienne une autre conduite? Montrez-nous un homme qui, après avoir vécu 80 ans sans études, sans piété, soit devenu tout à coup bon théologien, fidèle, consommé dans la vertu et dans la piété? Ne voyez-vous pas au contraire que celui qui étudie son catéchisme avec soin devient bon catéchumène? Que celui qui médite profondément sur la théologie devient bon théologien? Que celui qui travaille à modérer ses passions parvient à s'en rendre le maître? Et par conséquent, le Saint-Esprit veut que vous agissiez. Par conséquent, quand nous vous avons prêché que pour devenir bon chrétien, il faut y travailler, comme l'on agit pour devenir bon négociant, bon capitaine, bon mathématicien, bon prédicateur, par l'étude, par l'exercice, par le travail, par les actes réitérés. Nous n'avons rien avancé que de conforme au génie de la religion. Donc celui qui tire des secours du Saint-Esprit la conclusion qu'il convient de rester dans l'inaction et pour différer l'ouvrage de son salut, fait violence à l'économie du Saint-Esprit et renverse le but du ministère que Dieu a établi dans l'Église. C'est notre première réflexion. Nous avons marqué en second lieu les efforts que Dieu veut que nous fassions pour obtenir la grâce du Saint-Esprit, lorsque nous croyons ne l'avoir pas encore reçue. Car il est constant que Dieu veut au moins que nous la demandions. Les textes sont formels. Si quelqu'un a besoin de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Cherchez et vous trouverez. Demandez et il vous sera donné. Frappez et il vous sera ouvert. Si nous sommes obligés de demander la grâce, nous sommes aussi obligés de faire nos efforts, quelque faible, quelque imparfait il puisse être, pour obtenir cette grâce que nous demandons. Car comment oserions-nous demander à Dieu de nous secourir dans l'ouvrage de notre salut si de propos délibérés nous travaillons nous-mêmes à nous perdre? Comment demanderions-nous à Dieu de ne pas nous induire en tentation lorsque nous irions chercher nous-mêmes la tentation et que nous nous y plongerions avec fureur? Comment voudrions-nous qu'il éteignît le feu de notre cupidité, tandis que nous entretiendrons un commerce continuel avec l'objet qu'il embrase? Nous devons donc agir dans l'ouvrage de notre salut, comme à l'égard de notre santé et de notre vie. En vain travaillerions-nous à nous les conserver, si Dieu même ne nous prêtait son bras? L'air, la nature, les éléments, tout conspire à nous enlever au monde. Nous nous évanouissons comme de nous-mêmes, et Dieu peut seul retenir ce souffle qui nous soutient. Un roi d'Israël fut blâmé pour avoir eu recours aux médecins sans recourir à l'Éternel. Mais ne serions-nous pas des insensés si, sous prétexte que Dieu seul peut conserver notre vie, nous nous précipitions dans un abîme? Si nous nous abandonnions au flot de l'océan, si nous ne prenions ni aliments lorsque nous avons de la santé, ni remède lorsque nous sommes malades. Ainsi, dans l'ouvrage du salut, nous devons, lors même que nous implorons le secours du ciel, travailler à cet ouvrage. Nous devons imiter l'exemple de Moïse, attaqué par la Malécite. Il partage avec Josué l'ouvrage de la victoire. Moïse monte sur la montagne. Josué descend dans la plaine. Josué combat, Moïse prie. Moïse tend ses mains suppliantes au ciel. Josué lève un bras guerrier. Moïse oppose la ferveur au courroux du ciel. Josué oppose ses armes et son courage à l'ennemi du peuple juif. Et par ce sage concours de prière et d'action, de confiance et de vigilance, Israël triomphe. Amalek est mis en déroute. Remarquez en troisième lieu la manière dont le Saint-Esprit veut que nous répondions à ses soins lorsque nous en sommes l'objet. En déployant sa puissance au-dedans de nous, il ne prétend pas y agir comme avec tes troncs ou avec tes pierres. C'est un excellent mot de Saint-Augustin que Dieu qui nous a créés sans nous ne veut pas nous sauver sans nous. Et l'Écriture joint ordinairement ces deux choses. L'action de Dieu qui nous convertit et le devoir de l'homme qui doit répondre à cette action. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, voilà l'action de Dieu. N'endurcissez pas votre cœur. Voilà le devoir de l'homme. Vous avez été scellés par le Saint-Esprit. Voilà l'action de Dieu. N'attristez point le Saint-Esprit. Voilà le devoir de l'homme. Dieu produit en vous le dessein et l'exécution. Voilà l'action de Dieu. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Voilà le devoir de l'homme. J'ôterai le cœur de pierre et je donnerai un cœur de chair. Voilà l'action de Dieu. Faites-vous un esprit nouveau. Voilà le devoir de l'homme. Que signifient toutes ces expressions si le but de l'Écriture, en nous promettant ses secours, a été de favoriser notre nonchalance et d'excuser le renvoi à plus tard de notre conversion? Que sont ces devoirs qu'elle vient de nous prescrire, sinon ceux-là même dont nous avons prouvé la nécessité lorsque nous avons raisonné sur les habitudes? Qu'est-ce que ne pas endurcir son cœur à la voix de Dieu, si ce n'est travailler à le rendre sensible à cette voix? Qu'est-ce que ne pas attrister le Saint-Esprit, si ce n'est déférer à tout ce qu'il daigne nous prescrire? Qu'est-ce qu'ouvrir à Dieu frappant à la porte de nos cœurs, si ce n'est écouter lorsqu'il nous parle, marcher lorsqu'il nous appelle, se rendre lorsqu'il nous presse, trembler lorsqu'il nous menace, espérer lorsqu'il nous promet? Qu'est-ce que travailler à son salut avec crainte et tremblement, si ce n'est avoir cette continuelle vigilance, ces salutaires circonspections, ces soins empressés dont nous faisions voir la nécessité? Notre quatrième réflexion est prise des menaces que Dieu fait à ceux qui refusent de répondre au sein de la grâce. L'Esprit de Dieu, dites-vous, sera plus fort que votre obstination. Il surmontera vos penchants, il triomphera de vos oppositions. La grâce sera victorieuse et vous sauvera comme malgré vous. Mais plutôt, cette grâce se retirera de vous si vous persistez à la mépriser. Mais plutôt, cet Esprit vous abandonnera à vous-même après que vous l'aurez attristé. Il ôte le talent aux serviteurs infidèles qui négligent de le cultiver. Et nous avons cité ce passage, parce qu'ils n'ont pas eu de l'amour pour la vérité, Dieu leur a envoyé une puissance d'erreur, afin qu'ils croient au mensonge. D'où saint Paul tire cette conclusion, c'est pourquoi demeurez fermes, leur dit-il, retenant les enseignements que vous avez appris, soit par notre parole, soit par notre épître. Ailleurs, il est dit que celui qui aura su la volonté du maître sans la faire sera battu de plus de coups. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux déclare qu'il est impossible que ceux qui ont été illuminés, s'ils retombent, soient renouvelés à la repentance. Je sais que l'apôtre avait particulièrement en vue le crime de ces Juifs qui, après avoir connu et embrassé l'Évangile, en abjuraient la profession par lâcheté ou par malice. Nous devons pourtant en tirer cette conclusion, c'est que quand le Saint-Esprit nous a fait parvenir à un certain degré de lumière et de sainteté, si nous retombons dans nos vices, nous cessons d'être l'objet de ses soins. Mais pourquoi cet amas de raisonnements divers pour montrer l'absurdité du pécheur qui s'excuse sur sa faiblesse et qui vit dans la nonchalance et espérant l'opération de la grâce? Nous avons une voie plus abrégée pour confondre le pécheur et pour résoudre le sophisme que sa corruption nous oppose. Ouvrons nos livres sacrés. Voyons les conclusions que l'Écriture tire elle-même des dogmes de notre impuissance et des promesses de la grâce. Si ces conclusions s'accordent avec les vôtres, nous vous donnons quinte cause. Si elles y sont opposées, c'est à vous de reconnaître votre erreur. Or, montrez-nous quelque endroit de l'Écriture où l'on trouve des raisonnements pareils à ceux que nous réfutons. Montrez-nous quelque passage où l'Écriture, après avoir enseigné que vous êtes faible et que le Saint-Esprit veut suppléer à vos faiblesses, conclut de ces dogmes que vous pouvez vivre dans l'indolence. Ne voyez-vous pas, au contraire, qu'elle en tire les conclusions directement opposées? Je choisis deux textes entre un grand nombre. L'un est un oracle de Jésus-Christ, l'autre est un raisonnement de saint Paul. Veillez et priez, que vous n'entriez en tentation, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. » C'est l'oracle de Jésus-Christ. Dieu fait en vous le dessein et l'exécution. Travaillez à votre salut avec crainte et avec tremblement. C'est le raisonnement de saint Paul. Si nous avons fait un sophisme, lorsqu'après avoir établi la fragilité humaine et la nécessité de la grâce, nous avons appuyé sur ces dogmes mêmes les motifs qui doivent vous animer au travail et vous porter à la vigilance, c'est un sophisme dont l'Écriture est responsable. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. Voilà le principe de Jésus-Christ. Veillez donc et priez. Voilà le principe de saint Paul. Travaillez à votre salut. Voilà sa conclusion. Est-ce donc un esprit d'orthodoxie et de vérité qui vous anime lorsque vous protestez contre nos discours ? Êtes-vous plus orthodoxe que le Saint-Esprit et plus véritable que la vérité éternelle ? Ou plutôt, d'où vient qu'étant orthodoxe vous-même, dans le premier membre de la proposition de nos auteurs, vous êtes hérétique dans le second ? Pourquoi orthodoxe dans le principe, êtes-vous hérétique dans la conclusion ? Rassemblez maintenant toutes ces réflexions, mes frères. Ouvrez les yeux à la lumière qui sort de toutes parts pour corriger vos préjugés et voyez combien est peu fondé un homme qui trouve dans sa faiblesse naturelle, dans les secours du Saint-Esprit, des motifs pour différer sa conversion. Le Saint-Esprit agit au-dedans de nous, il est vrai, mais avec le concours de la parole et du ministère, en nous envoyant des pasteurs, en accompagnant de lumière leurs discours, de force leur exhortation, de puissance leur faiblesse. Et vous qui n'aurez jamais lu cette parole, vous qui vous serez soustrait à ce ministère, vous qui n'aurez pas voulu ni écouter ces discours, ni déférer à ces exhortations, ni vous rendre à cette puissance, vous voudriez que le Saint-Esprit vous convertisse par des moyens inouïs et hors des règles de ces opérations. Le Saint-Esprit agit au-dedans de nous, il est vrai. Mais il veut que nous le cherchions, que nous demandions ce secours dont nous sentons l'importance, que nous fassions nos efforts, même nos impuissants efforts, pour nous sanctifier nous-mêmes. Et vous voulez qu'il vous convertisse lorsque vous aurez négligé de le rechercher, lorsque vous n'aurez pas daigné le demander, lors du moins que vous serez abandonné à l'inaction et à la mollesse. Le Saint-Esprit agit au-dedans de nous, il est vrai. Mais il veut que vous répondiez à ses soins, que vous secondiez ses opérations, que vous cédiez à ses instances. Et vous voulez qu'il vous convertisse lorsque vous serez endurci à sa voix, lorsque vous n'aurez cessé de l'attrister. Le Saint-Esprit agit au-dedans de nous, il est vrai. Mais il nous déclare que si nous nous obstinons à lui résister, il nous laissera à nous-mêmes. Il nous refusera des secours qu'il nous avait offerts vainement. Il nous livrera à notre propre stupidité et à notre corruption naturelle. Et vous, parvenus au moment de la vengeance, arrivé à l'époque de l'accomplissement de sa menace, au bout d'une carrière criminelle, vous prétendez que cet esprit entre pour vous dans une nouvelle économie et qu'il fasse un miracle en votre faveur. Le Saint-Esprit agit au-dedans de nous, il est vrai. Mais de là même, il conclut dans nos Écritures que nous devons agir, que nous devons travailler, que nous devons employer à l'ouvrage de notre salut la force de notre tempérament, la facilité de notre conception, la fermeté de notre mémoire, la présence de notre esprit, la vivacité de notre génie. Et vous qui donnez au monde seul ce génie, cet esprit, cette mémoire, cette conception, ce tempérament. Vous vous appuyez sur ces discours mêmes pour autoriser un renvoi à plus tard et une nonchalance que l'idée de ces secours devait corriger. Si ce n'est pas là tordre l'Écriture, si ce n'est pas là faire violence à la religion et renverser le but que se proposait le Saint-Esprit lorsqu'il nous montrait notre faiblesse naturelle et qu'il nous promettait les secours de la grâce, il faut résister aux démonstrations les plus palpables. Voilà qui suffit, ce me semble, pour établir notre première proposition, que les secours de l'Esprit fondent la nécessité de former des actes de piété pour en acquérir l'habitude, et que la difficulté qu'on nous opposait se convertit en démonstration en faveur de ce qu'elle semblait renverser. Et voilà aussi, selon nous, la vraie théologie et les vérités dont doivent retentir les auditoires protestants. Heureux les docteurs, pour le dire en passant, si au lieu de multiplier les questions et les controverses, ils s'attachaient à presser ces vérités importantes. Mon âme, ne te perds point dans des spéculations creuses et abstraites. Ne sonde point les voies mystérieuses que Dieu suit pour pénétrer dans un cœur. Le vent souffle où il veut, tu en entends bien le son, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit de Dieu. L'orgueil va devant l'écrasement, l'humilité précède la gloire. Et le scrutateur de la majesté sera absorbé de son éclat. Contente-toi d'adorer la bonté de Dieu qui te promet son secours et qui, par l'opération de la grâce, daigne surmonter les désordres de la nature. Mais tandis que tu imploreras ce secours, tandis que tu gémiras dans le sentiment de ton impuissance, travaille à te surmonter et à triompher de toi-même. Tire des promesses de Dieu, des motifs à te sanctifier et à t'instruire. Et lors même que tu diras « Je ne suis rien, je ne puis rien », agis comme si tout dépendait de toi, comme si tu pouvais toute chose. L'idée des secours du Saint-Esprit est la première source d'illusion. Nous venons de la combattre. L'idée de la miséricorde de Dieu en est une seconde. Nous devons y faire aussi nos réflexions. Dieu est miséricordieux, dit-on. L'alliance qu'il a traitée avec nous est une alliance de grâce. Nous ne sommes pas venus à l'obscurité, ni au feu brûlant, ni à la tempête. Une amnistie générale est accordée à tous les pécheurs. Ainsi notre conversion fut-elle imparfaite, Dieu recevra nos derniers soupirs et se rendra à nos larmes. Qui nous empêche donc de donner un libre essor à nos passions et d'attendre à entrer dans les voies de la conversion que nous ne soyons plus bons pour le monde? Étrange raisonnement. Détestable sophisme. Mes frères, voici le paroxysme de la corruption et l'ingratitude au degré suprême. Que dis-je ? Pour ingrate que ce soit une âme, elle témoigne de la sensibilité et de la reconnaissance, du moins sur le champ et dans le moment qu'on la favorise. L'oubli des bienfaits et la méconnaissance ne viennent que lorsque le temps, ayant offert d'autres objets à l'esprit, l'empêche de s'occuper des grâces qu'il a reçues. Mais voici dans le raisonnement du pécheur un méfait d'un nouveau genre. Il se fait un art malheureux d'embrasser dans l'enceinte de son ingratitude et le présent et l'avenir. Les grâces qu'il a déjà et celles qu'on lui prépare. Je serai ingrat par avance. Je me méconnaîtrai dès à présent des biens que je n'ai point reçus encore. Dans chaque acte de mes crimes, je rappellerai à une mémoire anticipée les faveurs que Dieu me doit faire un jour, et je trouverai dans cette idée un motif pour m'affermir dans mes rébellions et pour pécher avec audace. N'est-ce pas là l'excès de la corruption et de l'ingratitude la plus détestable? Mais ce n'est pas assez de combattre ce système par des raisons de justice et de bienséance. Ce serait se faire de l'homme un portrait trop flatteur que de le croire sensible à de si nobles motifs. Ce serait peu toucher des pécheurs que de leur dire « Vous êtes des ingrats si vous persistez dans vos vices ». L'auteur de notre religion connaissait trop le cœur humain pour ne pas lui opposer de plus fortes digues. Portons nos hypothèses plus loin et montrons que ceux qui raisonnent de cette manière se fondent sur de faux principes, s'assurent sur une miséricorde à laquelle ils n'ont point droit de prétendre, et qu'ainsi, pour trouver Dieu favorable, il faut le chercher pendant qu'il se trouve et l'invoquer tandis qu'il est prêt. Ici, un ton scolastique et plusieurs questions qu'on agite dans les écoles seraient peut-être de saison si nous prêchions à un auditoire de docteurs consommés et prêts à nous opposer leurs arguments et leurs preuves. Mais nous ne voulons pas ramener ces disputes et ces controverses. Nous réduisons tout ce que nous avons à vous dire aux termes les plus clairs et aux questions les plus simples, et nous vous demandons deux choses. La miséricorde que Dieu vous offre sous l'Évangile, vous est-elle offerte absolument et sans condition? C'est la première question. Supposez que l'Évangile vous prescrive quelques conditions, sont-elles d'un genre à pouvoir être remplies dans un moment, au lit de la mort, après une carrière criminelle? C'est une seconde question. Les idées que vous formerez sur ces deux questions dépend de l'opinion que vous devez avoir d'un homme qui prétend être admis au trône de la miséricorde après une vie mondaine. Car si l'Évangile est une alliance absolue qui n'exige rien des chrétiens, ou si ce qu'il exige de vous n'est qu'un devoir aisé, qu'un soupir, qu'une larme, qu'un repentir superficiel, qu'un léger recours à la grâce puisse fournir parfaitement, votre raisonnement est démonstratif. Votre morale est outrée. Prévalez-vous des prérogatives d'une religion si commode. Cessez d'anticiper sur un avenir important et réduisez tout l'Évangile à un formulaire pour demander grâce. Mais si l'Évangile est une alliance conditionnelle, si les conditions sous lesquelles la grâce vous est offerte sont d'un genre à demander du temps, du travail, de la peine, et à devenir même impraticable lorsqu'on les diffère, votre raisonnement est trompeur, votre conduite est extravagante. Or, mes frères, j'atteste ici la conscience des pécheurs les plus obstinés et des casuistes les moins rigides. Peut-on raisonnablement hésiter à se déterminer sur ces deux questions? Et aurons-nous de la peine à prouver, d'un côté, que l'Évangile, en nous offrant la miséricorde, nous impose certains devoirs, et de l'autre, que nous nous mettons dans l'impuissance manifeste de les remplir lorsque nous différons à le faire? Premièrement, dire que l'Évangile est une alliance absolue, c'est vouloir nous épargner le soin de combattre et de réfuter, c'est se contredire soi-même. Car qui dit une alliance, dit un contrat mutuel entre deux parties. D'ailleurs, c'est renverser 1000 textes formels que nous évitons de rapporter parce que nous supposons qu'ils sont très connus de ceux qui nous écoutent. Deuxièmement, toute la question se réduit donc à celle-ci, à savoir quelle est la condition qui nous est imposée. Nous convenons tous à l'égard des termes. Cette condition est une disposition de l'âme, que l'Écriture appelle tantôt foi, tantôt repentance. Ne nous arrêtons pas aux mots. Qu'est-ce que cette foi ? Qu'est-ce que cette repentance qui vous ouvre l'accès au trône de la grâce? En quoi ces vertus consistent-elles? Est-ce dans un simple désir d'être sauvé? Est-ce dans un simple consentement à participer aux fruits de la mort du Christ? Ou si la foi et la repentance importent dans leur notion un renoncement au monde, un abandon de nos crimes, un changement total de notre vie, un principe qui nous faisant accepter toutes les faveurs que la croix de Christ nous procure, nous fait travailler sincèrement et de bonne foi à renoncer à tous les crimes qui l'y attachèrent. En un mot, suffit-il au pénitent de dire dans son lit de mort « Je veux être sauvé, je consens que mon Rédempteur ait porté la peine de mes crimes » ou s'il faut y joindre des sentiments proportionnés à la sainteté de ce salut qu'il demande et déraciner tous ces crimes dont Jésus-Christ a fait l'expiation. Je l'avoue, mes frères, je ne traite ces questions qu'à regret. Je crains que ceux des autres communions qui peuvent se trouver dans cet auditoire ne soient scandalisés de ce discours et ne publient à la honte du nom réformé que c'est encore un problème parmi nous si le renoncement au vice et l'attachement à la vertu doivent entrer dans l'idée de la foi et des conditions que nous prescrivons à nos pénitents. N'a le point le dire en gâte, ne le publiez point en Ashkelon. Il y a des insensés dans chaque société. Nous en avons aussi dans la nôtre. Il y a dans chaque religion des membres qui renversent les principes les plus généralement reçus dans cette communion. Nous en avons aussi dans la nôtre. Et il n'y a que des esprits de ce genre. Il n'y a que des insensés. Il n'y a que de faux protestants qui osent se former des idées si relâchées de la foi et de la pénitence. Un bon protestant croit, avec nos auteurs sacrés, que celui qui confesse ses péchés et qui les délaisse obtiendra miséricorde, que c'est afin que Dieu soit craint qu'il y a pardon devant lui, et que Dieu parle de paix à son peuple afin qu'il ne retourne plus à la folie. Un bon protestant croit que la foi sans les œuvres est morte, qu'elle est opérante par la charité, que l'on est justifié par les œuvres. Un bon protestant croit que l'approche du royaume des cieux est précisément ce qui doit nous porter à faire des fruits de pénitence, obliger le piéger à ne frauder plus, l'homme de guerre à ne plus user d'extorsion et à se contenter de ses gages. Un bon protestant croit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais pour ceux qui ne marchent point selon la chair, mais selon l'esprit. Que le péché n'a point de domination sur nous, parce que nous ne sommes point sous la loi, mais sous la grâce. Un bon protestant croit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, que rien d'impur n'entrera au royaume des cieux, que ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les efféminés, ni les larrons, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants n'hériteront point le royaume des cieux. Sans cette notion de la foi et de la pénitence, si la pénitence, si la foi ne sont qu'un simple désir d'avoir part au mérite de Jésus-Christ, s'il ne faut que demander grâce, sans corriger le fond de son cœur pour être sauvé, que serait l'Évangile? J'ose le dire, ce serait la plus impure des religions. Ce serait une économie monstrueuse. Ce serait une invitation au crime. Ce serait le renversement de la loi naturelle. Dans ces suppositions, les plus scélérats pourront avoir part à la miséricorde. Les lois de Dieu seront impunément violées. Jésus-Christ sera descendu du ciel, non pour corriger de nos vices, mais pour nous rassurer lorsque nous les commettrons. Un païen exclu de l'alliance de grâce sera réprimé dans ses excès par la crainte d'une plus grande punition. Un chrétien, au contraire, s'animera davantage dans la continuation de ses désordres, par l'idée d'une miséricorde toujours prête à le recevoir. Et vous, Celsus, vous, Porphyre, vous, Sosime, vous, Julien, ennemis célèbres du non-chrétien, qui reprochiez à l'Église naissante et qui accusiez tant de fois les premiers chrétiens d'autoriser la licence, vous étiez fondés dans vos plaintes, et nous n'avons aucune réponse à vous alléguer. Autant de réflexions, autant de démonstrations que la foi et la patience, sans laquelle nous ne saurions trouver accès à la miséricorde au lit de la mort, ne consistent pas dans un simple désir d'être sauvé, dans un recours superficiel au mérite de Jésus-Christ, mais qu'elles renferment dans leur notion ce renoncement au monde, cet abandon de nos crimes, cette transformation du cœur dont nous parlions tout à l'heure, et que sans cette foi, il n'y a point de grâce, point de miséricorde, point de salut. Je sais qu'il est des conversions naissantes, que la foi a ses degrés, la piété ses commencements, et le chrétien son enfance, et qu'au tribunal de Dieu miséricordieux, la sincérité de la repentance supplée à sa perfection. Mais appellerez-vous conversion naissante? Nommerez-vous foi? Prendrez-vous pour repentance les mouvements d'une conscience excitée, non pas par horreur que dans le crime, mais par la crainte de la peine? Non pas un principe de l'amour divin, mais par un principe de l'amour propre. Non par un désir de s'unir à Dieu, mais par l'horreur que cause l'idée d'une mort prochaine et l'image d'un feu dévorant. Et encore une fois, n'est-il pas vrai qu'à quelques degrés qu'on puisse porter les complaisances évangéliques, il est toujours démontré que la foi et la repentance emportent dans leur notion, du moins les principes de ce détachement du monde, de ce renoncement au crime, de cette transformation du cœur dont nous pressons la nécessité. Ce qui étant ainsi établi, la vérité triomphe, ce me semble, et je démontre combien peu un homme qui diffère sa conversion est fondé à s'appuyer sur la miséricorde de Dieu et à prétendre au salut. Car après avoir vécu dans l'indolence, par quel secret inouï formerez-vous dans votre âme cette repentance, cette foi que nous venons de dépeindre et sans laquelle l'accès à la miséricorde de Dieu est fermé? D'où la puiserez-vous? Sera-ce de vos propres forces ou de l'opération du Saint-Esprit? Direz-vous que c'est de vos propres forces? Que deviendrait alors votre orthodoxie? Que deviendraient les dogmes de l'impuissance de l'homme et de la nécessité de la grâce, qui vous servait de prétexte pour différer votre conversion? Ne voyez-vous pas que vous détruisez vos principes, que vous démolissez d'une main ce que vous édifiez de l'autre? D'ailleurs, souvenez-vous de ce que nous avons établi dans notre premier discours sur la force des habitudes. Et comment voudriez-vous qu'une habitude formée par des actes réitérés, qu'une habitude qui accroupit, vieillit dans un homme, se change en un moment? Comment voudriez-vous qu'un homme qui a consumé tant d'années dans le crime, qui s'est habitué à regarder le monde comme son bien, qui a toujours cru que la vertu n'était bonne tout au plus que pour servir de dernière ressource, comment voudriez-vous qu'un tel homme se refonde en un instant? Et en quel instant encore? Dans les années de la vieillesse, lorsque les sens sont usés, que la mémoire est affaiblie, que la raison est troublée, que la chaleur naturelle est presque éteinte, ou bien aux approches de la mort, lorsque la seule idée de ce roi des terreurs agite, trouble, confond. Il n'y a donc qu'une grâce extraordinaire du Saint-Esprit qui puisse convertir un tel homme. Mais quelle preuve avez-vous que le Saint-Esprit fera un pareil miracle en votre faveur? Ou plutôt, combien de présomptions notre première partie n'a-t-elle point fourni contre cette chimérique espérance? Concluons. Rien n'est si suspect qu'une repentance tardive. Rien n'est moins sage que le renvoi de la conversion. conclut encore, pour être secouru de la grâce, il faut vivre dans une continuelle vigilance. Pour être l'objet de la miséricorde, il faut avoir la repentance et la foi. La seule marque non suspecte de ces vertus, c'est une longue suite d'actions pieuses. Sans un miracle de la grâce, et dans le cours ordinaire de la religion, un homme qui a consumé sa vie dans le crime, quelques soupirs qui poussent au ciel à l'heure de la mort, a lieu de craindre que l'accès à la miséricorde ne lui soit fermé. Toutes ces choses paraissent bien sensées, mes frères. Cependant, les pécheurs aiment à se tromper eux-mêmes. Ils affectent de croire par raison ce qu'ils ne se persuadent que par caprice. Et ils nous font des objections qu'il est important de résoudre et par où nous allons entrer dans l'application de tout ce discours. Application. Nous trouvons des gens qui nous disent naturellement qu'ils ne peuvent pas comprendre ces choses, qu'ils ne sauraient s'imaginer que la justice de Dieu soit aussi sévère que nous voulons le faire entendre, et que les conditions de l'alliance de grâce aussi rigoureuses que nous venons de l'établir. Mais que sont tous ces raisonnements? Que des suppositions sans fondement et des conjectures frivoles? Il y a de l'apparence. Je ne saurais concevoir. Je ne puis pas m'imaginer. Voudriez-vous, sur des suppositions de ce genre, risquer votre réputation, votre honneur, votre fortune, votre vie? Comment pouvez-vous y risquer votre salut? La justice de Dieu n'est peut-être pas si rigoureuse qu'on nous le dit. Il est vrai, cela peut être. Si Dieu a devant lui quelque économie de grâce qui ne nous est pas révélée, s'il doit y avoir quelque évangile nouveau, si Dieu a préparé un autre sacrifice, vos conjectures auront lieu. Mais s'il n'y a point d'autre nom sous le ciel qui soit donné aux hommes pour être sauvés que celui de notre Jésus, s'il n'y a point d'autre sang que celui de l'aspersion faite par ce divin sauveur, si Dieu doit juger le monde universel selon mon évangile, tout votre raisonnement tombe et votre salut est désespéré. D'ailleurs, quelle manière de raisonner est celle-ci? Il y a de l'apparence. Je ne puis pas concevoir. Je ne saurais m'imaginer. Et qui êtes-vous pour raisonner de cette manière? Êtes-vous chrétien? Où est donc cette foi qui soumettait la raison aux décisions de l'Écriture, qui faisait recevoir les dogmes les plus abstraits, les mystères les plus sublimes? S'il est permis de raisonner ainsi, de répliquer lorsque Dieu parle, d'argumenter lorsqu'il décide, formons-nous une religion nouvelle. Mettons la raison sur le trône, faisons-en descendre la foi. Le dogme de la Trinité m'arrête. La satisfaction me confond. L'incarnation me présente des précipices où ma raison se trouve absorbée. Si vous voulez douter des dogmes que nous avons établis, sous prétexte que vous ne pouvez pas les comprendre, révoquons en doute les autres. Ils ne sont pas moins incompréhensibles. Je vais encore plus loin, et j'ose soutenir que s'il faut consulter la raison sur l'idée que nous vous avons donnée de la justice de Dieu, elle s'accorde avec l'Écriture. Tu ne peux pas concevoir que la justice soit si rigoureuse. Et moi, je ne saurais pas concevoir qu'elle soit si indulgente. Et moi, je ne saurais pas concevoir que le maître du monde ait voulu revêtir une chair humaine, s'exposer à la fureur d'une populace effrénée et expirer sur une croix. C'est la plus grande difficulté que je trouve dans l'Évangile. Mais tais-toi, raison impérieuse, voici de quoi te satisfaire. Joins la difficulté que tu trouves sur la justice avec celle que te fait naître l'idée de la miséricorde. L'une est le correctif de l'autre. L'excès de la miséricorde justifie l'excès de la justice. Et l'excès de la justice vient de l'excès de la miséricorde. Si les gens qui nous tiennent ce langage, si les gens qui trouvent la justice de Dieu trop rigoureuse, si c'était des gens qui travaillaient avec quelques soins à leur salut, si c'était des gens qui y emploient une heure de la journée, leur difficulté aurait quelques couleurs. Ils paraîtraient avoir quelques lieux de se plaindre. Mais qui sont-ils? Ce seront des gens qui lâchent la bride à leur passion. Ce seront des abominables qui font gloire de leur commerce infâme. Ce seront des cœurs implacables qui haïssent leur prochain et qui veulent haïr toute la vie. Ce seront des mondains qui emploient une partie de la nuit au jeu, aux excès, au spectacle et qui reprennent sur le jour la partie de la nuit qu'ils avaient dérobée à leur mollesse. Ce seront des gens fiers, arrogants, qui sous prétexte qu'ils ont des équipages somptueux, des titres superbes, croient pouvoir violer impunément tous les engagements du christianisme. Ces gens-là, lorsque nous leur disons que s'ils persistent dans ce train de vie, il n'y aura point de grâce pour eux, nous disent qu'ils ne peuvent pas concevoir que la justice de Dieu les traite d'une manière si rigoureuse. Et moi, je ne puis pas concevoir qu'elle te traite d'une manière si indulgente. Et moi, je ne puis pas concevoir comment Dieu permet que ce soleil t'éclaire. Et moi, je ne puis pas concevoir comment, tenant la foudre à la main, il semble pourtant n'être que le spectateur oisif de tes sacrilèges. Et moi, je ne puis pas concevoir comment la terre ne s'ouvre sous tes pieds et comment ces gouffres affreux anticipe la peine que la vengeance divine t'apprête dans les enfers. Mais, dit-on, cette miséricorde dont on nous donnait de si grandes idées a donc des bornes étroites. Mais plutôt, comment se peut-il qu'on ose former des difficultés de ce genre? Dieu, le Dieu bienheureux, l'être suprême, vous tire du néant. Il vous donne son Fils, il vous offre son Esprit, il vous promet de vous supporter tel que vous êtes, avec vos infirmités, avec votre corruption, avec vos faiblesses. Il vous ouvre les portes du ciel, il veut se donner lui-même à vous, il ne vous demande autre chose, si ce n'est que vous lui consacriez ce peu de jours que vous devez vivre sur la terre. Il n'exclut du paradis que les impénitents, que les endurcis. Comment peut-on dire que la miséricorde de Dieu soit bornée? Quoi? Dieu ne peut-il être miséricordieux sans couronner vos injustices? Et ne concevez-vous de miséricorde à votre gré que celle qui vous permet un abandon général au crime? Mais encore, dit-on, si les conditions de l'alliance de grâce sont telles qu'on les a marquées, c'est donc une grande tâche que celle du chrétien. Et il est donc bien difficile d'être sauvé. Mais, mes frères, croyez-vous que cette difficulté nous épouvante? Ne savez-vous pas que c'est la porte étroite, que c'est le chemin étroit qui mène à la vie? Ne savez-vous pas qu'il faut s'arracher un œil, se couper un bras, surmonter les penchants les plus tendres et les plus doux, rompre les liens de la chair et du sang, de l'amour propre et de la nature? Ne savez-vous pas qu'il faut crucifier le vieil homme, renoncer à soi-même? Ne savez-vous pas qu'il faut joindre à la vertu, à la foi à la vertu la science à la patience l'amour fraternel à la charité toutes les vertus? Mais, ajoute-t-on, il y aura donc bien peu de gens sauvés. Une autre objection que nous redoutons très peu. Il serait indissoluble peut-être si Jésus-Christ ne nous avait pas appris lui-même à y répondre. Mais est-ce là un nouvel évangile? Est-ce une doctrine nouvelle de dire qu'il y aura peu de gens sauvés? Et Jésus-Christ ne l'a-t-il pas déclaré lui-même? J'en appelle ici à tous ceux qui entendent la doctrine des types. Je leur propose un type parlant, un type non équivoque, mais un type terrible. C'est cette malheureuse troupe d'Israélites qui murmurèrent contre Dieu après qu'ils furent sortis d'Égypte. Le but où il tendait, c'était le pays de Canaan. Dieu fait des miracles sans nombre pour les y introduire. La mer s'ouvre pour leur faire un passage. Le pain descend du ciel pour les nourrir. On voit des eaux jaillir d'un rocher pour les abreuver. Une seule chose leur manque, c'est qu'ils n'entrent point en Canaan. Il n'y en a que deux parmi ces milliers de personnes qui y soient admis. Que signifie ce type? Cela même qu'on nous oppose. Les Israélites représentent ses auditeurs. Les miracles représentent les soins de la Providence pour votre salut. La Canaan représente le paradis où vous aspirez. Et Josué et Caleb, seuls reçus dans un pays que tant de miracles semblaient promettre à tout le peuple. Que signifie-t-il par rapport à tous ces chrétiens? Mes frères, je n'ose pas en faire l'application. Je vous laisse cet objet à contempler et cet effrayant sujet à méditer. Mais encore, dit-on, pourquoi vient-on nous prêcher une doctrine si terrible? C'est renverser la religion, c'est porter les hommes au désespoir. Grand péril, en effet, danger imminent de porter au désespoir des hommes que je combats. Supprimer les poisons, enlever les poignards, fermer tous les accès de la mort à ces cœurs que le souvenir de leurs crimes va porter aux derniers excès. Mais quoi? Ces esprits que nous venons de dépeindre, ces hommes froids, ces âmes indifférentes, ces cœurs vendus au monde, à ses voluptés, sont-ce-là ces consciences faibles et délicates que nous devons épargner, et chez qui nous devons craindre que les idées de la justice divine ne produisent des impressions trop vives et trop profondes? Ah, malheureux qui nous proposez des difficultés de ce genre, si vous vous trouviez dans un lit de mort, si parvenu au bout d'une carrière criminelle, vous voyez l'enfer ouvert sous vos pieds, tout prêt à vous engloutir, si vous n'aviez plus pour ressources que les derniers efforts d'une âme expirante, vous seriez digne de pitié. Mais vous respirez encore, la grâce vous est offerte, tout le chemin de la pénitence vous sont ouverts, l'Éternel se trouve encore. Il n'y a personne au milieu de vous qui ne puisse l'invoquer avec succès. Mais vous voulez donner au monde le temps de votre vie. Vous voulez vieillir dans vos vices, vous voulez vous enraciner dans vos mauvaises habitudes, et quand on vous presse, quand on vous fait voir votre turpitude, quand on vous montre l'abîme où vous plongez volontairement, vous dites que c'est là vous désespérez. Nous admettons cette conclusion. Pour des gens tels que vous, il n'y a rien à attendre que l'horreur et le désespoir. Plût à Dieu, notre voix devenue semblable au son du tonnerre, et la lumière de nos discours rendue aussi vive que celle dont saint Paul fut terrassé sur le chemin de Damas, qu'elle vous jette aux pieds du Seigneur comme cet apôtre. Plût à Dieu que l'idée du désespoir et l'image affreuse de l'enfer vous remplissent d'une frayeur salutaire et vous portassent à l'éviter. Plût à Dieu que le corps livré dès ce moment à Satan, l'esprit trouva son salut dans la journée du Seigneur. C'est à vous appliquer ces choses, mes frères, et à profiter dès aujourd'hui des moyens de conversion que la Providence vous offre. Et s'il y a quelques ressources encore, quelque espoir pour le pécheur qui diffère de se convertir, ce n'est point au ministre de l'Évangile à vous les annoncer. Nous ne sommes pas les maîtres de la religion, nous sommes les ambassadeurs du Christ. Nous avons nos ordres précis et notre commission limitée. Dieu veut que nous publions son alliance, que nous vous promettions tous les secours de la grâce, que nous vous ouvrions tous les trésors de ses miséricordes et que nous vous conduisions au lieu saint, à la trace du sang du Sauveur du monde. Mais chacun de ces privilèges a ses conditions annexées et vous en avez vu la nature. Remplissez-les, repentez-vous, donnez de votre conversion des marques effectives, solides, constantes. Alors, il y aura pour vous des trésors de grâce. Mais tant que vous persisterez dans le crime, et pour vous dire aujourd'hui des choses qu'il sera peut-être inutile de vous dire demain. Tant que vous y aurez persisté pendant votre vie, et que l'idée d'une mort prochaine et la crainte de l'enfer vous arracheront quelques protestations forcées et vous feront revêtir quelques fantômes de conversion, nous ne saurions s'en passer nos ordres et sans aller au-delà de notre commission, parler de paix à vos âmes et vous annoncer le salut. Et ces réflexions doivent disculper les ministres de l'Évangile qui savent soutenir la majesté de leur emploi et répondre à leur caractère. Si elles ne nous disculpent pas dans vos esprits, elles nous justifieront au moins dans ce grand jour où les choses les plus cachées seront mises en évidence. On n'a point d'idée de notre ministère. On nous appelle chez un mourant que nous savons avoir été un scélérat, ou du moins avoir été très éloigné de remplir les conditions de l'alliance de grâce. Ce scélérat, aux approches de la mort, fait semblant, ne parle que de repentir, que de miséricorde, que de larmes. On voudrait qu'à la vue de cet extérieur de conversion, nous supposassions qu'un tel homme est plus que converti, et que dans cette téméraire supposition, nous lui offrissions les premières places dans le séjour des bienheureux. Mais malheur, malheur à ces ministres qui, par une cruelle douceur, précipitent des âmes dans l'enfer sous prétexte de leur ouvrir le paradis. Malheur au ministre de l'Évangile qui sera si libéral des faveurs de Dieu. Au lieu de parler de paix à un tel homme, je crierai à plein gosier, j'élèverai ma voix comme un cornet, je censurerai, je tonnerai, je décocherai contre lui les flèches du Tout-Puissant, je lui en ferai boire tout le venin. Heureux si je me fais jour à travers tant de passions invétérées, si je sauve par frayeur et si j'arrache comme du feu un cœur endurci dans le crime. Que si, comme il arrive pour d'ordinaire, le mourant ne donne à sa conversion que les restes d'un corps usé et les derniers soupirs d'une vie mourante. Malheur, malheur encore au ministre de l'Évangile qui, par une lâche politique, viendra, pour ainsi dire, canoniser ce mourant comme s'il avait expiré de la mort des justes. Et qu'on ne dise pas « Que voulez-vous ? Voulez-vous troubler les cendres d'un mort ? Voulez-vous désespérer une famille ? Voulez-vous mettre une note d'infamie dans une maison ? Ce que je veux soutenir les intérêts de mon maître. Je veux agir en digne ministre de Jésus-Christ. Je veux vous faire éviter de prendre pour une bonne mort une mort antichrétienne. Je veux mettre à profit la perte que je viens de faire et que la proie que le démon vient de m'enlever épouvante les assistants, une famille, toute une église. Voulez-vous savoir, mes chers frères, quel est le moyen de prévenir de si grands malheurs ? Voulez-vous savoir quel est le véritable temps d'implorer la miséricorde, d'attirer le Saint-Esprit dans vos cœurs ? C'est ce moment, c'est à présent. Cherchez l'Éternel tandis qu'il se trouve. Oui, il se trouve aujourd'hui. Il se trouve dans cette assemblée, il se trouve dans cette parole que nous vous adressons encore. Il se trouve dans ces exhortations que nous vous faisons de sa part. Il se trouve dans vos cœurs par ses remords, par ses peines, par ses mouvements qui l'y excitent et qui vous disent de sa part de chercher sa face. Il se trouve dans vos cabinets où il s'offre d'avoir avec vous les entretiens les plus familiers et les plus tendres. Il se trouve chez ces pauvres, chez ces malades, chez ces cadavres mourants, chez ces images vivantes de la mort et du tombeau qui sollicitent vos compassions et qui vous ouvrent un chemin de charité pour aller au Dieu qui est la charité même. Il se trouve aujourd'hui et peut-être demain il ne se trouvera plus. Peut-être demain vous le chercherez vainement. Peut-être demain la mesure sera comblée. Peut-être demain la grâce sera retirée pour jamais. peut-être demain, l'arrêt qui doit décider de votre destinée éternelle sera prononcé. Ô qui saurait connaître ce que vaut un temps si précieux. Ô qui saurait se comparer avec ces malheureuses victimes que la vengeance divine s'immole dans les enfers et pour lesquelles il n'y a plus de temps. Qui saurait, à sortir de ce temple, au lieu de tant de vains entretiens et de dissipations criminelles, qui saurait aller se jeter aux pieds de la majesté de Dieu, pleurer le passé, régler le présent, prendre de salutaires précautions pour l'avenir? Qui saurait le forcer par des soupirs entrecoupés, par des prières ferventes, par des torrents de larmes, de ne se retirer jamais? Qui saurait lui dire, et plus du cœur que de la bouche, « Demeure avec moi, Seigneur, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni, que tu n'aies triomphé de ma corruption, que tu ne m'aies donné les arts de mon salut. Seigneur, le temps de ma visitation est comme expiré, je le vois, je le sais, je le sens, il faut un miracle pour ma conversion. Mais je te le demande, ce miracle, et je l'obtiendrai de tes compassions. » Mes frères, mes chers frères, nous n'avons point d'expression assez tendre, point de mouvement assez émouvant, point de prière assez touchante pour vous porter à ces devoirs. Que votre zèle supplée à notre faiblesse. Si nous avons fait briller à vos yeux le glaive de la vengeance divine, ce n'est pas pour vous perdre, c'est pour vous sauver. Ce n'est pas pour vous désespérer, c'est pour exciter en vous une tristesse selon Dieu, une repentance dont vous ne vous repentiez jamais. Il ne tient qu'à chacun de ces chrétiens qui m'écoutent et qui me regardent de participer à ces avantages. Puissiez-vous, dès à présent, former la résolution de mettre à profit une liberté si précieuse? Puisse l'heure de votre mort, répondant à la sincérité de vos résolutions et à la sainteté de votre vie, vous ouvrir les portes du ciel et vous faire trouver dans la gloire ce Dieu que vous aurez trouvé favorable dans l'Église. Dieu vous en fasse la grâce, au Père, au Fils et au Saint-Esprit, soit honneur et gloire à jamais.